Nous allons tirer le daf Mem Gimel dans Masechet Bavam Tziano. Prenons la nouvelle Mishnah tout en haut du daf. Amavkid Marotet El Shulchani, celui qui laisse de l'argent chez un Shulchani, c'est quelqu'un qui change les pièces, qui change les monnaies, il lui laisse de l'argent à garder. Im Tzrurim, s'il laisse l'argent enveloppé, le Ishtamesh Bahem. A priori, ça veut dire qu'il ne veut pas que la personne utilise l'argent jusqu'elle le garde. Il ne peut pas l'utiliser et du coup, le Fichar, il met à nous Enochéab Achagudan, si après l'argent est perdu, la personne n'est pas responsable parce qu'il n'était que gardien gratuit et que ce n'était pas prévu a priori qu'il les utilise. Moutarine, si par contre l'argent est délié, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché dans une bourse ou quelque chose, Ishtamesh Bahem, le Shulchani pourra l'utiliser et s'il peut l'utiliser, il devra être responsable s'il a quelque chose. Si c'est perdu, il sera responsable. Et Tsel Balabait, si maintenant il a laissé l'argent à un particulier, Ben Sourim, Ben Boutarim, le Ishtamesh Bahem. On ne fait pas de différence que l'argent soit dans une bourse enveloppée, fermée ou pas. Le privé n'aura pas le droit de l'utiliser. Les Ferrari, il m'a donné un Khamachayutan. C'est pour ça que si c'est perdu, il ne sera pas responsable. Donc on fait une distinction ici entre un particulier et un professionnel de biens monétaires, justement d'argent. Ce professionnel-là, si l'argent est enveloppé, on a l'impression qu'on lui laisse le droit de l'utiliser, donc il est khayav. Maintenant, Renvani, c'est un commerçant de nourriture, un épicier. Kebalabait, dit Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, comme ce n'est pas un professionnel de l'argent, il est comme un particulier et donc il ne peut jamais l'utiliser. Donc il n'est pas Khaya si c'est perdu. Rabbi Uda Omer, Renvani Keshulchani. Et selon Rabbi Uda, à partir du moment où ça reste dans le cadre de sa profession, c'est un professionnel, c'est comme un Shulchani. Et donc on fait une distinction, si on lui laisse l'argent qui est enveloppé, ça veut dire qu'il peut l'utiliser et donc il est khaya si c'est perdu. Ragma s'étonne à propos de cette différence. Pourquoi faire une différence entre un argent qui est mis dans une enveloppe, qui est enfermé et l'autre qui n'est pas enfermé? En quoi a priori ça change quelque chose par rapport à la kavana de celui qui laisse l'argent? Parce que l'argent est enveloppé, mais tout le monde en général quand il a la possibilité met de l'argent dans une enveloppe, dans un sachet, dans quelque chose. Personne ne laisse de l'argent comme ça traîner. Amaravasi, Amaraviuda, première explication, Onuraviuda, Bistrurim, Khatumim Shanu. C'est un cas où c'est vraiment fermé avec une sorte de chotin, quelque chose qui, un sceau, quelque chose qui montre que la personne veut que ça reste fermé et donc qu'elle ne veut pas que la personne utilise. Rav Mari Amar, Rav Mari donne une autre explication, Bekesham Echouné. Un cas où le nœud est un nœud différent. Pareil, la différence qu'il y a ici dans le nœud montre que la personne ne veut pas qu'on l'utilise. Donc deux explications, il y en a qui disent que la seconde explication n'était pas une explication dite de manière certaine, mais une question. Il y en a qui disent que Bayer Amari Ramari a posé la question, que fait-on du cas où le nœud est différent? Est-ce que la différence dans le nœud est une preuve que la personne ne veut pas qu'on l'utilise? Alors, on m'a dit tekou et on n'a pas de réponse là-dessus. Donc on ne sait pas si c'est un tekou ou si c'est une affirmation. Quoi qu'il arrive, on a déjà expliqué la distinction qu'il y a entre le cas où la personne peut utiliser ou pas, quand en tout cas c'est un professionnel de l'argent, un shulchani, ça dépend justement si le nœud ou une sorte de sceau qu'il y a dessus prouve que la personne ne veut pas qu'on utilise ses pièces. Maintenant on avait dit que Moutarin et Ishtamesh Bahem, on avait dit que dans le cas où on a laissé de l'argent qui n'était justement pas enveloppé, à ce moment-là on pouvait l'utiliser, même le shulchani, enfin surtout le shulchani pouvait l'utiliser et donc du coup il est responsable. La Gmadama Ravuna va filouner en dessous. Ravuna nous dit que quand on dit qu'il est khayab, le khayenvani, il est khayab même si Nensu, même si l'argent n'a pas seulement disparu, mais a subi finalement un cas de force majeure. Donc il était volé de manière à ce qu'on ne pouvait pas prévoir qu'il allait être volé. Un incendie, un tremblement de terre, je ne sais pas, quelque chose d'imprévisible, une force majeure. Selon Ravuna, la personne est responsable puisqu'il l'a utilisé. La Gmara dit Avdou Katane. La Gmara dit attends, mais c'est pas vrai, c'est marqué Avdou, que l'argent a été perdu. Et l'argent qui est perdu, on n'a pas l'impression que c'est une force majeure, on a l'impression que c'est la personne qui est plus ou moins négligente. La Gemara dit Kedé Rabba. Il faut expliquer comme ce qu'a dit Rabba. Qu'a dit Rabba? La Marabba Rabba dit que Nignez-vous. Quand on dit Nignez-vous, Avdou, voler et perdu, parfois ça n'a pas le sens de voler classique et de perdu classique où on a l'impression que la personne est responsable. Non, Nignez-vous et Avdou, voler et perdu, on peut parler de cas à chaque fois de force majeure. Nignez-vous, Belistim Mezouyan. Lorsque la personne est braquée, un vol à main armée, la personne est obligée de donner. Donc ce n'est pas un vol classique où il est responsable, c'est un ones. Et Avdou, dans le cas où c'est perdu, Shtarous Finato Bayam, où c'est lorsque le bateau, la personne a coulé en pleine mer, et qu'évidemment il ne pouvait pas prévoir ni éviter ce genre de choses. Ça, c'est le premier Rabbi Ravuna qui dit que lorsque le Shouchani a le droit d'utiliser l'argent, parce que justement l'argent n'a pas été enveloppé de manière à ce que l'on montre qu'on ne veut pas que le Shouchani utilise, puisqu'il a le droit, s'il perd l'argent, il est responsable, et selon Ravuna, même si la raison de la perte est une force majeure. Rav Nachman n'est pas d'accord. Ama Nensulo lui dit non. Si c'est un cas de force majeure, il n'est pas responsable. Et là maintenant, on va avoir Rav Nachman qui va objecter à Ravuna. Ah, mais les Rabba et Rav Nachman. D'abord, Rava qui dit à Rav Nachman. Les Didar d'Amar Nensulo, selon toi, où la force majeure ne l'engage pas, Alma lo avec Shoel Alayou. Donc selon toi, ce n'est pas un Shoel. Quel est le statut de cette personne-là? Quel est le statut de Chenvani à qui on a laissé de l'argent sans lui prouver qu'on ne veut pas qu'il l'utilise et qu'il l'a utilisé? Est-ce que finalement il est que Shoel comme un emprunteur? Si c'est Shoel, c'est pas possible. Shoel, il est Chayav Bonsin. Alma lo avec Shoel Alayou, donc il n'est pas Shoel. Il Shoel lo ave. Shomer Sachar Nami lo ave. Alors il m'a dit quoi? Il faut au moins que ce soit Shomer Sachar. Il faut au moins qu'il ait le statut d'un gardien rémunéré. Amalé lui a répondu. Beham Modinalach. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. De Oil Benehene. Mehena, que puisqu'il a un profit de ses pièces, puisqu'il peut l'utiliser pour faire des affaires, bah ou an a, de imitrimeles vina, par le profit qu'il a, que si il a une affaire qui se présente, il barrevacha, qui peut le faire de l'argent, zavan, bah ou il peut acheter avec ou vendre, avec alaylo, shomer sacha, il devient shomer sacha, donc effectivement il a le statut shomer sacha, et c'est la raison pour laquelle au moins il est chayab, dans le cas où c'est perdu. Que sinon, s'il n'est que shomer hina, il n'est même pas responsable dans le cas où c'est perdu. Maintenant, c'est Rav Nachman qui va objecter à Ravuna, qui pense que Ravuna, qu'il est chayav filou b'yonsin. Et il va Rav Nachman et Ravuna, amakin ma'ot et tzel shulchani, celui qui laisse donc de l'argent chez un shulchani, comme dans notre Mishnah, il sourit, il m'a dit, si l'argent est enveloppé, on a dit, il ne l'utilisera pas. Et fichar imotsi, c'est la raison pour laquelle si il y a une dépense, lo ma'a la gizbar, le gizbar n'a pas profaner le Meila. Ici, on parle d'un cas un peu particulier, différent du coup de la Mishnah. C'est un cas où on a un Gizbar. Gizbar, c'est le comptable du Beit HaMikdash qui prend de l'argent, qui pense être son argent personnel, mais qui en fait s'avère être l'argent du Beit HaMikdash. Il va voir un Shulchani, donc un professionnel de l'argent, et il lui laisse cet argent, il dit « garde-le-moi ». Maintenant, il ne sait pas que cet argent qu'il est en train de lui laisser n'est pas le sien propre, mais celui du Beit HaMikdash. Et il le laisse dans les mains du Shulchani, et on a deux situations. Si le Shulchani, l'argent est enveloppé de telle sorte à ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. S'il utilise cet argent, et donc finalement, il fait quelque chose de différent de ce qu'a demandé le Gizbar du Beit HaMikdash, le Gizbar du Beit HaMikdash ne sera pas responsable de l'utilisation du bien Ekdesh. Le problème ici, c'est que c'est un interdit vis-à-vis de Dieu d'avoir utilisé de l'argent qui était appartenant au Beit HaMikdash. Si le Chenvani qui gardait l'argent a été au-delà de ses fonctions, il n'avait pas le droit d'utiliser, à ce moment-là, il n'est pas Khaya. Si par contre, il lui a laissé Moutarim, laissé de l'argent qui était donc sans être enveloppé, donc avec l'utilisation des Shtamesh Bahem d'en profiter, les Ferrari Motsi. Mais à la Gizbar, c'est pour ça que si le Chenvani utilise l'argent pour faire des affaires, finalement, il est en train d'utiliser l'argent qui est avec Desh, mais comme ce n'est pas lui qui le sait et ce n'est pas son argent à lui, c'est l'autre qui lui a donné cette mission-là. À ce moment-là, c'est le Gizbar qui est responsable. Et maintenant, la question arrive. Mais Iyamart, et si tu dis Afilou Nensou, si tu dis que quand on est Chenvani et Shulchani qui reçoit l'argent, et on est Chayav Afilou Beontsin, Maïria Otsi, Afilulu Otsi, Nami, finalement ici on ne devrait pas faire de distinction. À partir du moment où le Gizbar a pris l'argent qui était l'argent finalement du Hekdesh, à partir du moment où il a laissé l'argent au Shulchani, que le Shulchani finalement ait dépensé l'argent ou pas, il devrait être Hayav. Pourquoi? Parce que selon Ravuna qui dit qu'il est Hayav Otsi, ça veut dire qu'en fait le Shulchani, quand on lui laisse l'argent, il a un statut, un argent qui ne doit pas être dépensé, c'est comme s'il était Shoel, c'est comme s'il était emprunteur. Et à partir du moment où il a un statut d'emprunteur, ça veut dire qu'au moment où on le lui laisse, la personne, l'argent sort de sa propriété. Et donc du coup, ici dans le cas où l'argent était l'argent du Hekdesh, lorsque le Gizbar a donné l'argent directement au Shulchani, c'est comme s'il lui avait prêté, et donc c'est comme s'il avait déjà dépensé lui-même l'argent du Hekdesh. Et donc du coup, quoi qu'il arrive, il devrait être Moel. La Gemara lui répond, Amale, tu as raison. Ou Adin, Afalgas de l'autre, tu as raison. Même si L'argent n'a pas été dépensé, le chenani, le gizba et chayav. Simplement, va dire Tana Reisha Oti, Tana Seifa Oti. La raison pour laquelle on a enseigné simplement le cas où ça a été dépensé, c'est parce que dans l'autre cas de la Mishnah, on avait besoin d'enseigner, donc on enseigne également là. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas réellement de diouk à faire. Et finalement, que l'argent ait été dépensé ou pas, lorsque l'argent a été enveloppé, la personne est responsable, le gizba est responsable à partir du moment où il a laissé l'argent au chenvani. Nouvelle Mishnah, Asholeach Yad Bepikadon, celui qui utilise un picadon, un bien qui est gardé chez lui, Bet Shammai Omrim. Alors, il l'utilise et le bien, après, est perdu. Alors, en fonction de quelle valeur, si l'objet a pris la valeur ou a perdu la valeur, en fonction de quelle valeur et de quel moment on doit rembourser la personne. Bet Shammai Omrim, Milke, Bechaser ou Beyate. Bet Shammai nous dit, il sera frappé, puni, entre guillemets, Bechaser ou Beyater. En cas de plus-value ou de moins-value, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il sera perdant, il paiera toujours la valeur la plus chère. Ça, pour l'instant, on est encore une fois dans la lecture qui sera la première lecture de la Gemara à propos de la Mishnah, c'est-à-dire que c'est un bien qui a pris de la valeur ou qui en a perdu, même si on verra que la lecture finale est un peu différente. En tout cas, pour l'instant, quand on dit plus-value ou moins-value, c'est du bien lui-même. Beit Hillel Omrim Kesha Totsa'a, selon Beit Hillel, c'est en fonction du moment où l'objet est sorti, on verra exactement ce que ça veut dire, Rabbi Akiva Omer, Kesha Tatvi'a, comme le moment, c'est en fonction du moment où l'objet est réclamé par son propriétaire. Alors, Amar Rabba, maintenant on a une halakha au sujet du vol. Haïman de Gazal Chavita de Chamra Mechavre, celui qui vole un tonneau de vin à quelqu'un. Mais Kara Shavia Souza, au début, le tonneau valait un zouz, Ashta Shavia Abba, et il y a eu une inflation, le tonneau de vin vaut après 4. Alors on nous dit quoi? Tavra, Oshtea, s'il l'a cassé ou s'il l'a volé de manière volontaire, Meshalem Arba, il paiera 4. La valeur finale. Idva Mimela, s'il a été cassé tout seul, Meshalem Zouza, il ne paiera qu'un Zouza. Donc là on parle ici d'un vol, on ne parle pas de quelqu'un qui a emprunté, même si chez nous la ressemblance est, puisque finalement comme l'objet était gardé chez nous, à partir du moment où l'objet est gardé et que la personne est Sholachyad, vient et prend l'objet dans le but de, dès que la personne prend cet objet, elle devient Kegazlan, comme un voleur par rapport à cet objet. Donc c'est pour ça qu'on utilise maintenant cette mémoire de Rabat, qui nous dit Rabat que lorsque c'est un vol classique, et que l'objet au départ valait une certaine valeur, et qu'au moment où l'objet se casse, il en valait 4, ce qu'on nous dit ici selon Rabat, c'est que ça va dépendre. Si c'est lui qui l'a cassé, il doit, de manière volontaire, il doit payer la somme la plus forte. Si c'est pas lui, il paiera la somme de départ. Maïta Ama, quelle est la raison? Kevin de Ita Adra le Marabaina, quelle est la raison pour laquelle il doit payer 4? C'est parce qu'au final, si l'objet était encore là, donc il a volé l'objet, il valait 1. Au moment où il décide de le casser, il en vaut 4. S'il n'avait pas cassé, l'objet qu'il a volé, qui valait 1, il aurait dû le rendre aujourd'hui, alors qu'il en vaut 4. Et donc il aurait dû donner à l'autre un objet qui vaut 4. Et au final, Aisha Ata de Kachatele, au moment où il décide de le bourrer, ou de catavaler, ou de le casser, Kagazalmine, à ce moment-là, il est en train de lui voler, non pas que les 1 zouz, du moment où il a pris l'objet de chez la personne, mais il est en train de lui voler même les 3 zouz supplémentaires, qu'il normalement devrait revenir au propriétaire, si on lui rendait le tonneau tel quel. Utnan est un principe que Kol Anixalim, Meshalim, Keshadakzela, que le voleur doit payer en fonction de la valeur de l'objet au moment du vol. Et donc finalement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est quand il y a eu une inflation et que la personne après, de manière volontaire, a cassé, c'est comme s'il y a eu deux vols, ou en tout cas que le vol principal se fait non pas au moment où l'objet est déplacé, mais au moment où la personne qui pouvait encore rendre l'objet décide de le détruire de ce monde, de le boire ou de le détruire, et de faire de telle sorte à ce qu'il ne récupère pas. C'est là que le vol réellement est fait, le vol est 4 zouz, et donc il doit 4 zouz. Alors, la Gemara nous explique. Il doit mimer la Meshalem Zouza. Alors, celui. Alors justement, lorsque ça s'est cassé tout seul, on a dit qu'il paye 15 zouz. Pourquoi Maïta Amak, elle a raison. Ashta, l'on a vu la Vélomide. Là, il n'a rien fait. Amak, elle m'a dit le. Haïshata de Gazla. Haïshata de Zouza. Ou Shavia. Pourquoi? Parce que puisque c'est pas lui qui a cassé le tonneau qui a décidé de le boire, le seul vol qu'il a fait, c'est le moment où il a pris chez la personne. Donc quand il a pris chez la personne, c'est là qu'il a volé. Il n'a jamais fait un autre acte volontaire de vol que l'autre avait fait quand il a cassé de manière volontaire. Donc du coup, il est khayav sur un zouz. Donc du coup, on nous explique ici que selon Rabat, en fonction que la personne ait fait de manière volontaire ou pas la destruction de l'objet volé, il sera khayav du prix de départ ou du prix d'arrivée. C'est parce que finalement, le moment du vol est déporté. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut avoir une différence entre un zouz et quatre zouz en fonction de la situation. Maintenant, la Gemara reprend notre Mishnah. Tnan, Bet Hillel Omrim, Kishatot Sa'ar. On a dit dans la Mishnah que Bet Shammai, il fait payer la personne le surplus, quoi qu'il arrive. Il sera puni qu'il y ait une perte ou une augmentation de valeur. Alors, Bet Hillel a dit Kishatot Sa'ar, comme le moment de la sortie. Alors, Bet Hillel Omrim, Kishatot Sa'ar Amai. C'est quoi Kishatot Sa'ar? Kishatot Sa'ar Ilema, Kishatot Sa'ar Mina Olam. Si c'est le moment où l'objet sort du monde, ça, l'objet est perdu. Alors, comment ça fonctionne? Ubemaï, de quel cas on parle? Donc, on parle d'un objet qui a été volé et qui après a été perdu. Donc, Michila, dans le cas de la Mishnah, il n'a pas été volé, il a été donc mis en gardiennage. La personne a été choléarial, a posé la main dessus, ce qui revient au moment du vol, plus ou moins, et l'objet après disparaît. Si on le fait payer au moment, en fonction du moment où il a disparu. Alors, de quel cas parle-t-on? Ibechaser, si c'est un objet qui a perdu de sa valeur, c'est-à-dire qu'au départ, il valait beaucoup. Après, au moment où il disparaît, il en vaut moins et on va le faire payer, donc le moins. Mika le mandamar, est-ce que c'est possible que quelqu'un dise ça? Ve'atan, pourtant on a dit, kolagazani, michal mi michal axel, qu'on fait toujours payer en fonction du moment du vol. Aucun voleur peut être gagnant en disant, voilà, moi je l'ai volé, ça valait 100, mais comme quand il a disparu, il valait 50, je ne paye que 50. Ve'i biyater, alors si c'est la situation inverse, donc c'est un bien qui valait une certaine valeur, qui a doublé de valeur, on va dire, après. Et on le fait payer la valeur finale. Et si c'est cela, ça revient à Bet Shammai. Aïno Bet Shammai, Bet Shammai avait dit qu'il ke bechaser beyater. Alors, et là, pshita keshatot sa'a mi bet be'alim. Donc la Gemara du coup réfute cette explication. Elle dit que quand on dit que Bet Hillel fait be keshatot sa'a, c'est pas la haute sa'a quand l'objet disparaît, sort du monde. Keshatot sa'a, lorsque l'objet disparaît de la possession, de la propriété de son propriétaire. Donc le propriétaire a un bien, il le laisse chez un gardien. Tant qu'il est à son endroit, il n'y a pas de problème. Dès que le gardien décide de le prendre pour lui, et il est choler boyad, il l'utilise, à ce moment-là, ça devient un vol. Et donc l'objet s'appelle étant sorti du domaine de la propriété de son maître. Et c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, nous dit Rabbi Hillel, on perd en fonction de ce moment-là. Agmadi Leima Rabba. D'amarquer Bet Shammai. Donc, du coup, ça pose problème. Pourquoi? Parce que si on dit que Bet Shammai dit que l'on paye en fonction de la valeur finale, si ça a augmenté, on a dit maintenant, si ça a augmenté, on paye la valeur finale, et on voit que selon Bet Hillel, on le fait payer en fonction du moment où il est Sholar Boyad, c'est-à-dire que quand Rabba, qui a parlé d'un cas similaire, parce que rappelez-vous que le fait Sholar Boyad, c'est comme Xéla, parce qu'il a parlé d'un voleur qui a volé un tonneau qui valait 1, et qui à la fin, au moment où il disparaît, vaut 4, on lui dit de payer 4, s'il a fait exprès de le casser. C'est-à-dire que Rabba, finalement, il est comme Bet Shammai, et non pas comme Bet Hillel. Donc l'agma va changer de d'avis. Amalecha Rabba, Rabba va te dire, Beater kula alma l'obligé. Non, dans un cas où il y a une inflation, tout on est d'accord. Kula alma l'obligé, qui pligé, bechaser. Le cas de la marquette Bet Hillel, Bet Shammai, finalement, ce n'est pas un cas où l'objet a pris de la valeur. Quand on a pris de la valeur, tout le monde est d'accord avec ce que je dis, mais la marloquette est dans un cas où, au contraire, ça a perdu la valeur. Selon Bet Shammai, shlichut yad, le fait d'être hayav quand on utilise un objet qu'on est censé garder, il n'y a pas besoin qu'il y ait de perte. Et du coup, dès qu'il a mis la main dessus, ça devient son objet à lui, au gardien, au voleur. Et donc, la perte d'argent, elle est pour lui. Ou Bet Hillel Sarer, Bet Hillel pense que Shlichut Yad, Srichah Chisaron, que Shlichut Yad, tu n'es chayav quand tu touches l'objet que tu dois garder que lorsque tu provoques une perte à l'objet. Et donc, au moment où il a posé la main, il n'est pas encore chayav, et c'est pas encore à lui. Et donc, la perte d'argent finale sera à la charge du propriétaire. Mishuta, Nimare Chaser, et du coup, c'est dans le domaine du propriétaire que l'argent est perdu. La Gemara dit, mais c'est pas possible, pourquoi? Parce que si tu dis ça, ça veut dire que selon Bet Hillel, Shlichut Yad, Srichah Chisaron, et là, Hadama Rava Rava dit pourtant Shlichut Yad, Eina Srichah Chisaron. Qu'on pourrait être chayav, on n'a pas besoin d'avoir un Chisaron. Les Marava d'Amarke Bet Shammai, c'est-à-dire que Rava est parce qu'on Bet Shammai, ils ont un principe encore une fois que la Lacha n'est jamais quasiment, à part dans des cas très rares et connus, la Lacha n'est jamais comme Bet Shammai. Et là, Rabbe Maskinan, donc la Gemara corrige encore une fois la Marloquette. Kegon, Shititela, Le Avi, Ale Agozalot. C'est un cas où il a déplacé l'objet, non pas pour en prendre une partie, pour ou le voler complètement, le shlichut classique, simplement il l'a déplacé pour l'utiliser, pour monter dessus, on avait dit hier, par exemple, pour aller récupérer des oiseaux ou un nid. Et du coup, elle est à propos du statut de celui qui emprunte sans l'accord de la personne. Celui qui emprunte sans demander, c'est un voleur. Donc du coup, la perte après de valeur est pour lui. Elle pense que celui qui emprunte sans l'accord, c'est un shoel, ça reste un emprunteur. Et donc du coup, l'objet reste la propriété de son maître, et du coup, à la fin, on estime que la perte d'argent s'est faite dans le domaine du propriétaire. La Gemara objecte. Et là, Rava, Gazlan, pourtant, Rava, il pense que selon Chachamim, un emprunteur sans la volonté, sans l'accord du propriétaire, est considéré comme un voleur. Et Marabanan, d'un vrai que Bet Shammai, ça veut dire que selon Rava, Chachamim pense comme Bet Shammai, ce qui n'est pas possible encore une fois. La Gemara corrige et dit, et là, ici, on parle non plus d'un objet qui a perdu ou pris de la valeur comme on pensait jusqu'à présent dans l'actuelle Mishnah, mais finalement, c'est un bien qui a fructifié. Donc, un animal qui a donné naissance à un autre animal ou un mouton qui a produit de la laine. Donc, c'est la production de l'animal ici qui va être sujet à Machloket. Bet Shammai, c'est vrai. Shvar Gezela Denixalave. Bet Shammai, il pense que le Shvar Gezela, quand on dit qu'il paiera en fonction du dernier moment, c'est parce qu'il pense que Shvar Gezela Denixalave, il pense que le produit de l'objet volé appartient à la victime. Ou Bet-il-El pense, Shvar Gezela Degazanave, il pense que non, ça appartient au voleur. Et en fait, la Machloket Bet-il-El Bet-Shamay ici reprend une Machloket connue, Netanya Gozel et Tarachel, celui qui vole un petit mouton, une brebis, Gezaza, Veyalada, et après il a pu faire une tonte, et après il a même pu récupérer un bébé. Mais Shalem, Ota, Rabbi Meir, il faut absolument qu'il rende tout, il devra tout payer au propriétaire. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda pense, Gezela, Choseret, Be'enera, que pas du tout, l'objet volé revient tout seul, mais sans la laine et sans le bébé qui est né entre-temps dans les mains du voleur. Donc cette marque Rabbi Meir et Rabbi Yuda serait la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, du coup, qui n'a pas de rapport avec le cas de Rabat où quelqu'un volait un objet qui valait un tonneau, et à la fin il valait 4 et payait en fonction du moment final. Ça, c'est la halakha de Rabat. Et finalement, la Mishnah ne parle pas de ce cas-là. Elle parle de quelqu'un qui a volé en prenant l'objet qui était sous sa protection, et entre-temps, donc l'objet a créé de la laine ou enfanté, et à ce moment-là, la question Bet-Hillel, Bet-Shammai ou Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, c'est à qui appartient cette production. La Gemara prouve que c'est bien ça l'explication des Kanami, des Katané, c'est marqué dans la Mishnah Bet-Shammai Omrim, Yilke Bechasa ou Beyater, Bet-Hillel Omrim, Bechkesha'at Otsa. On voit que les mots de Bet-Hillel, de Bet-Shammai, c'est que la personne sera punie avec Chaser Yater, ce qui est en moins, ce qui est en plus, et on ne parle pas de Zol ou de yoker, on ne parle pas de plus-value ou d'inflation ou de déflation, on ne parle pas de baisse de prix, on parle plutôt de quelque chose qui est rajouté ou qui est enlevé, et donc du coup on a l'impression finalement qu'on parle de cela, et c'est pour ça que Bet Hillel dit Keshat Otsa, Shema Amina, c'est bien la preuve que c'est ça le sujet de la Mishnah. Maintenant Rabbi Akiva Omer, Keshat HaTviah, que selon Rabbi Akiva, c'est le moment de la Tviah, au moment où on demande. Et selon les commentaires sur le Rif, par exemple, on explique ici que Rabbi Akiva, il est finalement comme Bet Hillel. Donc il est comme Bet Hillel, que le voleur finalement acquiert ce qui a été produit par l'animal, simplement à une condition tout de même, c'est que ça ne se passe pas après le moment où le propriétaire réclame. À partir du moment où le propriétaire réclame son bien, à ce moment-là, tout ce qui est produit après n'appartient pas au voleur. C'est comme ça que le Rif explique Rabbi Akiva. Marabi Yuda, Marshmuel, maintenant on nous dit que Alakha Rabbi Akiva, Alakha comme Rabbi Akiva. Maintenant, on nous dit pour l'instant que si il y a des témoins qui ont vu le gardien utiliser l'objet, le prendre sur l'arboyan, il sera d'accord ici, Rabbi Akiva, que dans ces cas-là, on n'applique pas ça à l'achat. S'il y a des témoins au moment où il a volé, ou au moment où il a été sur l'arboyan, on considère qu'on revient à l'idée de Beth Hillel, c'est-à-dire que comme c'est les témoins qui le rendent chayav, à ce moment-là, c'est comme si on considérait ce moment-là comme étant le moment pour déterminer la valeur qu'il doit rendre. Maït a marqué la raison, d'un marqué c'est marqué dans la Torah, la chair, ou l'eau, itenenu beyom hashmato, à celui à qui ça appartient, il le rendra beyom hashmato le jour de sa culpabilité. Alors, avec Keiv, Aneka, Edim, le jour de la culpabilité selon Rabbi Akiva, c'est Yom Hatzia, c'est le moment où on lui réclame. Mais comme ici, il y a eu des témoins à l'époque, Ma'ushata, des Chayav le Hashma. À partir du moment où il y a eu des témoins qui l'ont vu, à ce moment-là, il devient Chayav. Et c'est ça le Yom Hashmaton. Malé, Rabbi, Arshayam, il y en a qui disent que c'est pas ça. Rabbi Yuda, Rabbi, Yata, Omer, Ken, Achia, Marabasi, plutôt Rabasi, il a dit à Marabi Yochanan, Marabi Yochanan, que Chalok, Rabbi Akiva, Filou, même comme chez Shayim. Rabbi Akiva était cholèque sur les Tanaïm d'avant, en disant que c'était le chat Tatvi'a et non pas le chat de, du vol, même qu'il y a des témoins, Maïtama, pourquoi ? D'un makra la chair, ou l'eau, itene nou bien machmato, justement du même verset, qui dit à celui à qui ça appartient, il le rendra le jour de sa culpabilité, ou beidina, ou de kamecha, et vele hachma, et au final, réellement, la culpabilité, elle est entérinée par le beddin, donc c'est le moment de la Tatvi'a, et non pas le moment où les témoins ont vu. Au passage, la Gemara va trancher la lacha. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Abba bar Papa, qui azalt le Atam, akif, asulma de tzor, lorsque tu iras là-bas en Eretz Israël, passe par là, par asulma de tzor, et veol galbe de Rabbi Akob bar Idi, et va, monte chez Rabbi Akob bar Idi, ou bien amine, demande-lui, ishmi ale le Rabbi Yochanan, si Rabbi Yochanan a entendu, alacha ki Rabbi Akiva, ou en alacha ki Rabbi Akiva, est-ce que l'alacha est comme Rabbi Akiva ou pas, que chata dira ou pas? Amalé, il lui a répondu, Achi Amar Rabbi Yochanan, comme ça disait Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Akiva le Olam. L'alacha est comme Rabbi Akiva, toujours. L'agma s'étend sur le lachon toujours. L'agma dit, Amar Marashi, Shelo Tomar, Maï le Olam, Amar Marashi, Shelo Tomar, Anemil Echad Elikaedim. Pour pas que tu crois que l'alacha n'est comme lui que lorsqu'il n'y a pas de témoins, Amar Elikaedim lo, mais quand il y a des témoins, c'est pas comme lui. Et là, justement, c'est toujours l'alacha, comme Rabbi Akiva, donc c'est la lecture de Rabbi Yochanan qu'on vient de citer. Inami, autre possibilité, l'adra le durta, itavra, dans le cas où l'objet a été rendu à la personne et qu'il était volé, qu'il a été cassé après, l'apoké mid Rabbi Ishmael pour dire qu'il est chayav dans ce cas-là et ça exclut la vie de Rabbi Ishmael. Rappelez-vous d'Amar, l'obénadat banim, Rabbi Ishmael pense que lorsqu'on vole un objet, qu'on le rend, on n'a pas besoin de tenir au courant le propriétaire. Kamashmalan de bainan d'ad banim, kamashmalan Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Akiva, que tant que la personne n'est pas au courant que l'objet est revenu, il est encore sous la responsabilité du voleur. Et la Gemara nous conclut en disant que Rava Omer, que la lacha est comme Beth Hillel, lacha comme Beth Hillel. Donc au niveau de la lacha, pas très clair, parce que finalement on a une discussion entre Rava et Rabbi Yochanan, que la lacha est comme Rabbi Akiva ou pas. Si la lacha comme Rabbi Akiva, a priori, elle est qu'il y ait des témoins ou pas témoins, ça a l'air d'être ça la maskana de Rabbi Yochanan. Et en tout cas, la discussion Beth Hillel, Beth Shammai et Rabbi Akiva dans la Mishnah ne parle pas d'un cas où il y a eu une dépréciation, dans un cas où il y a eu une production d'un bébé ou de laine. Et par contre, dans le cas où il y a eu une augmentation, dans le cas d'un vol ou dans le cas d'un chômeur qui est chez l'arboyard, on a vu comme rabat qu'on paiera en fonction de la valeur finale, la valeur la plus élevée si l'objet a pris de la valeur, puisque c'est à ce moment-là que la personne a causé la perte. C'est ça ce qu'on appelle finalement Sha'at Tevi'a. Ça, c'était le résumé de la seconde Mishnah. Et après, on a vu dans la première Mishnah qu'en général, lorsqu'on essaie de l'argent à quelqu'un, quelle que soit la manière de lui donner de l'argent à garder, il ne pouvait pas l'utiliser, donc il n'était pas grave s'il était perdu, sauf si c'est un professionnel de l'argent, un shulchani qui travaille dans le change. Lui, si l'argent est posé de n'importe quelle manière, sans être protégé en lui montrant qu'on ne veut pas qu'il l'utilise, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser, donc à ce moment il sera chayav. Dans le cas où il est chayav, on a vu une machloket entre Ravuna et Rav Nachman, est-ce qu'il est chayav filou be'onsi, mais dans un cas de force majeure ou pas. Et on a vu également une machloket dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda, savoir est-ce qu'un autre professionnel, mais pas de tout ce qui est argent, mais comme un commerçant, est-ce que lui a le statut d'un particulier ou d'un shulchani par rapport à ça? C'est une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda.